Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, mercredi 18 février 2026. Vous avez choisi d'écouter l'émission quotidienne d'information locale de Syllab et vous avez fait un bon choix. On commence tout de suite avec le flash d'Estelle.
Un air de déjà-vu au Pérou, José Reilly du parti Somos Perú a quitté hier le pouvoir. En 4 mois, il est le deuxième président destitué par le Congrès. Il est visé par 2 enquêtes pour trafic d'influence. L'une porte sur des rencontres non déclarées avec des entrepreneurs chinois, l'autre sur le recrutement irrégulier de collaboratrices gouvernementales. Réuni en session extraordinaire, le Congrès a voté sa censure immédiate par 75 voix pour, 24 contre et 3 abstentions. Arrivé par intérim en octobre après la destitution de Dina Boluarte, sa chute est désormais célébrée dans les rues de Lima. Les parlementaires élisent aujourd'hui un nouveau président, le 8e en 10 ans, qui assurera l'intérim jusqu'aux élections présidentielles prévues le 12 avril. Les algorithmes sont-ils conçus pour rendre addicts les utilisateurs et utilisatrices de réseaux sociaux au détriment de leur santé mentale ? C'est à cette question que va tenter de répondre la justice américaine aujourd'hui à Los Angeles. Et sur le banc des accusés, le patron de Meta en personne, Mark Zuckerberg. Elisa revient sur cette question.
Et oui, c'est inédit. Pour la première fois, les réseaux sociaux sont suspectés d'avoir causé du tort à des enfants et adolescents. Les principaux mis en cause sont Instagram, Facebook et YouTube. Au départ, la plainte visait TikTok et Snapchat, mais les plateformes ont conclu un accord confidentiel avec la plaignante. Au cœur de ce procès, le dossier de Kylie G.M., une jeune femme de 20 ans disant avoir été exposée aux réseaux sociaux depuis petite. Elle raconte avoir utilisé YouTube dès l'âge de 6 ans, puis Instagram à 11 ans, et enfin TikTok et Snapchat durant son adolescence. Elle l'affirme, son addiction à ces applications a été source d'anxiété, de dépression et de perte de confiance en soi. Son cas est pris en exemple pour représenter des centaines d'autres plaintes similaires aux États-Unis. Selon le Social Media Victim Law Center, plus de 1000 dossiers mettraient en cause des réseaux sociaux et sont toujours en cours de traitement. 12 jurés d'une cour civile vont examiner ces cas pendant 6 jours. Leur verdict déterminera la conclusion des autres procès et les poursuites potentielles. La particularité de ce procès, les plaignants et plaignantes s'attaquent à la façon dont sont conçues les applications et pas au contenu publié. La loi américaine décharge les réseaux sociaux de toute responsabilité concernant les publications. Dans le viseur de la justice donc, les algorithmes et les fonctions de personnalisation incitant au scrolling compulsif. Malgré toutes les accusations, Meta nie les faits et préfère parler d'utilisation problématique de la part du jeune public. Adam Mosseri, le patron d'Instagram, a, lui, été auditionné le 11 février et a contesté l'existence d'addiction aux réseaux sociaux. Selon lui, ce n'est pas la même chose qu'une addiction clinique. La veille, la psychiatre Anna Lemke l'atteste. Les algorithmes ont un effet néfaste sur les cerveaux des enfants et préadolescents, provoquant des comportements addictifs. Au Nouveau-Mexique, un procès similaire accuse le groupe Meta de, je cite, « préférer les profits à la protection des mineurs » contre les prédateurs sexuels. Ces procès se déroulent en parallèle d'une procédure à l'échelle nationale, visant elle aussi la responsabilité des plateformes dans l'addiction aux réseaux sociaux. Elle se déroule devant une juge fédérale d'Auckland et débouchera sûrement sur un autre procès en 2026.
En France, l'interdiction de ces plateformes pour les moins de 15 ans et le bannissement des smartphones dans les lycées est sur la table. Les pouvoirs publics espèrent, avec ces mesures, limiter l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents et adolescentes. Vers une accalmie entre Paris et Alger. En déplacement en Algérie depuis lundi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune. À la sortie, il a indiqué que les deux pays étaient parvenus à, je cite, « réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau ». Cette visite de 2 jours intervient après plusieurs mois de fortes tensions diplomatiques, notamment sur la question migratoire. Il a remercié le président Tebboune d'avoir demandé à ses services de travailler en collaboration avec les Français pour améliorer significativement la coopération en matière aussi de réadmission, un dossier épineux. Le ministre a également évoqué le cas du journaliste français Christophe Glaize, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme. Aucune information n'a filtré sur ce point. Agressions, menaces et calomnies. Depuis l'homicide du néofasciste Quentin Deranque à Lyon samedi, militants antifascistes, insoumis et syndicalistes vivent dans la peur. Ce matin, le siège de LFI à Paris a été évacué par une alerte à la bombe. L'alerte intervient alors que le parti est pointé du doigt pour sa responsabilité supposée dans la mort du militant d'extrême droite. Plusieurs députés ou candidats insoumis ont vu leur permanence vandalisée. Olila, la candidate pour le scrutin des 15 et 22 mars prochains, a retrouvé un tag LFITU sur son domicile. En plus des 9 arrestations d'hier, un homme et une femme ont été à leur tour interpellés. Parmi eux se trouvent deux collaborateurs parlementaires du député insoumis Raphaël Arnaud. Un nouveau record aujourd'hui pour la France aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina. Les Françaises du biathlon s'emparent de l'or olympique sur l'épreuve du relais. Camille Benoît, Lou Jamonot, Océane Michelon et Julien Simon s'imposent devant la Suède et la Norvège. L'équipe de France remporte le titre olympique du relais féminin pour la première fois depuis les Jeux d'Albertville en 1992. Les biathlètes tricolores offrent à la délégation française sa 17e médaille, dont 6 en or, un record. La France grimpe à la 4e place du classement des JO d'hiver 2026. Après 7 ans d'enquête et de procédure, le tribunal judiciaire de Rennes a rendu hier sa décision dans le procès de 4 policiers de Saint-Malo jugés pour homicide involontaire. Ils écopent de 6 mois de prison avec sursis. Dans la nuit du 9 au 10 février 2019, Alain Lambin avait été placé en garde à vue à Dinard à 21h30 après un accident de voiture alors qu'il était alcoolisé. Il avait été retrouvé inanimé dans sa cellule. Le décès est dû à une asphyxie mixte combinant effets toxiques et positionnels liés à une chute ayant empêché sa respiration. Un promoteur immobilier familial fait une première à Rennes. Qualité de vie immobilier va transformer les anciens bureaux de la mutuelle MGEN au Gailleul en résidence étudiante avec service. Le projet prévoit 150 logements pour étudiants et étudiantes et une quarantaine de T2 pour jeunes actifs. Les travaux devraient démarrer début 2027 avec une livraison attendue pour la rentrée 2028. Le festival rennais I'm from Rennes vous invite à sa soirée de soutien pour sauver sa prochaine édition. Cédric Bouchu, programmateur et cofondateur du festival, en dit plus à Elisa sur cet événement.
On organise cette soirée de soutien parce qu'on a eu un déficit financier au mois de septembre 2025 lié à la météo qui a été très très mauvaise. Nos finances sont surtout liées au bar et à la restauration. Le bar et la restauration ont beaucoup moins fonctionné, ce qui est logique et qui nous a créé un déficit. Alors les invités, il faut savoir que 100% des spectacles et des animations, en fait, ce sont des gens qui sont vraiment très motivés par le projet I'm from Rennes. Donc on aura la compagnie La Serpe, qui est une compagnie de théâtre d'improvisation qui jouera en ouverture de soirée pour un championnat du monde de lancer de charentaise, donc qui est participatif. Ensuite, on aura le groupe Flying Bones, qui est un groupe de garage rock, un duo. On continuera avec le groupe Success, qui est une reformation. C'est un groupe qui n'existe plus depuis 2017, qui ont fait des tournées internationales et qui se reforment spécialement pour l'occasion et qui joueront plutôt électro-rock. On continue avec, après, Ville & Tough. On a eu une très belle surprise de ce projet électro avec des performances drag. On continuera pour terminer avec DJ Cup of Tea qui va gérer les interludes entre les spectacles et qui finira cette soirée en boom au niveau du bar pour qu'on puisse passer une bonne soirée et espérer évidemment faire une édition en 2026. Alors pour faire un don à l'association, c'est assez simple, soit faut acheter sa place, on a même des gens qui proposent des billets suspendus, c'est-à-dire qui achètent leur place mais qui ne peuvent pas être présents samedi, et autrement, il y a sur le site internet d'I Am From Rennes, il y a un onglet pour faire des dons, il ne faut pas hésiter à le faire, et notamment pour les gens qui paient des impôts, notamment ils peuvent défiscaliser, c'est-à-dire qu'ils reçoivent en échange un bon qui leur permet de défiscaliser au niveau des impôts à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers.
Merci Elisa. À noter que l'entrée est au prix de 15€ avec une réservation sur le site I'm From Rennes, 18€ sur place et 12€ pour le tarif réduit.
C'était le flash d'Estelle Vasquez. On passe à l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
La parole à Romane.
Ce soir, nous allons parler d'un projet singulier à la croisée du théâtre et de l'histoire. Un spectacle qui fait dialoguer archives, mémoires et récits vécus autour d'un lieu qui a profondément marqué la ville de Rennes, la prison Jacques Cartier. L'essence de la porte, histoire de la prison Jacques Cartier, c'est un projet porté par la compagnie de théâtre La Morsure. Et ce soir, nous recevons Marie Parent, metteuse en scène de la troupe. À ses côtés, Fanny Lebonhomme, universitaire et historienne, membre de l'association Quartier Libre. Elles sont toutes les deux habillées de gilets sans manches, léopard et bleu marine. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Est-ce que pour commencer, peut-être une question pour toi Fanny, est-ce que tu peux nous raconter rapidement ce qu'était la prison Jacques Cartier ?
Oula, alors la prison Jacques Cartier, c'est une prison qui a ouvert ses portes en 1903 à Rennes et elle a fermé ses portes en 2010. Donc c'est une prison qui a quasi un bon siècle d'existence et c'était une maison d'arrêt. Donc c'est-à-dire que c'était une prison où on trouvait des personnes qui étaient prévenus, pas encore jugés, détenus pour plutôt des courtes peines ou des gens en attente de transfert. Donc c'était plutôt la... Tout le monde passe par la maison d'arrêt quand on est arrêté pour aller en prison en fait. C'est une prison très ordinaire.
Et comment est né le spectacle ? À quel moment l'histoire de cette prison est devenue une matière commune entre recherche historique et création théâtrale ?
Alors je vais reprendre la parole. Donc moi je fais partie d'une association qui s'appelle Quartier Libre avec ma collègue Gaïd Andro. Donc on a fondé cette association pour essayer de faire la recherche, une recherche sur la prison. Une recherche un peu différente en impliquant les anciens acteurs de la prison, anciens détenus, anciens surveillants, voisins aussi. Et en fait, on avait lancé une collecte de sources orales. On a interrogé des gens au moment où Rennes Métropole a un peu a acheté la prison et l'a ouverte aux gens du patrimoine. Et on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait beaucoup d'histoires autour de cette prison. Et on a eu envie d'essayer de réfléchir à la manière dont on pouvait aussi collecter cette matière, mais en croisant enjeux de l'histoire et enjeux du théâtre. Comment le théâtre d'improvisation pouvait aussi permettre de collecter une autre matière. Et comme Gaïd Andro connaissait le travail de la morsure, elle a eu l'idée d'en parler avec Marie et Christophe.
Et quel sujet vous avez souhaité mettre en avant dans ce spectacle ?
Enfin, les sujets étaient fonction des personnes témoins, acteurs, actrices de la prison, comme on l'a dit. Donc anciens détenus, surveillants, travailleuses sociales, voisins, voisines. Donc la collecte, elle a été faite thématiquement, mais parfois, évidemment, c'est ce qui nous intéresse énormément, c'est de laisser la parole à celles et ceux qui l'ont vécu. Donc c'est ça qui a aussi guidé la recherche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fanny.
En fait, l'idée, c'était de laisser... on a fait un appel à témoins. Qui est-ce qui a envie de participer à ce projet un peu hybride, un peu expérimental ? On ne savait pas trop où on allait, mais on y allait. Et il y a des gens qui ont répondu. Donc, y a, dans l'équipe, il y a des anciens détenus, un ancien surveillant, il y a des voisins, il y a une ancienne assistante sociale, une prof de philo, un médiateur. Enfin, des gens qui ont
le fils d'un détenu aussi, en 39-45, résistant.
Donc, tout le monde a un rapport différent à la prison. Et l'idée du spectacle, c'est de montrer la pluralité des expériences de cette prison, quoi, peut-être.
En sachant qu'on ne peut pas avoir toutes les expériences et qu'elles sont, encore une fois, particulières. C'est l'histoire de Jacques Cartier, c'est des histoires de Jacques Cartier. Donc c'est un peu tout l'enjeu qui est atteignable et inatteignable, c'est de faire un portrait précis de cette histoire-là. Il y a une forme de subjectivité, même si on est dans une démarche, aussi une approche scientifique.
Et comment on passe d'un travail d'enquête à un spectacle ?
Alors, comment on passe d'un travail d'enquête à un spectacle ? Là, il faudrait une émission d'une heure et demie. Peut-être ce qu'on peut se dire, c'est que toute cette collecte de matière, elle est ensuite repassée à la moulinette d'une certaine forme de mise en scène pour que la forme qui soit créée, elle elle arrive aux spectateurs et aux spectatrices. Donc il faut quand même, en même temps, prendre aussi, avoir une approche thématique avec des choses que les historiennes ont envie de trouver et qu'elles cherchent, faire entendre la parole des témoins, acteurs, actrices de cet endroit-là et créer une forme à tout ça. Moi, je dirais que c'est comme ça qu'on peut imaginer un dialogue qui est un peu antagoniste. Il y a des enjeux, on dit souvent, entre l'histoire et le théâtre qui sont contradictoires. Nous, on cherche une forme qui a une dimension poétique et les historiennes cherchent la question de la science dans une démarche scientifique et les témoins et les acteurs actrices sont dans une recherche de leur vérité aussi. Donc chacun et chacune a une histoire à raconter, chacun et chacune ont des enjeux qui ne sont pas les mêmes, qui sont parfois, comme je le disais, antagonistes, divergents, mais qu'on doit faire converger. C'est peut-être ça l'idée d'un spectacle.
Et juste pour préciser, en fait, on travaille, on a un groupe, une troupe qui s'est formée. Maintenant, je crois qu'on peut parler de troupe parce qu'on a eu la première à passer dimanche dernier. Donc, il y a 17 personnes, en comptant les deux historiennes plus les deux metteurs en scène. Et on travaille ensemble depuis décembre 2024. Hein. Donc, on a fait des ateliers qui croisent improvisation et histoire. Et c'est ce qu'on montre au tambour demain. C'est aussi l'aboutissement de tous ces ateliers qu'on a fait ensemble, en fait.
Et la recherche. En fait, on essaye de, juste dans un dispositif scénique, par exemple, les acteurs et actrices sont tout le temps sur scène, sur le banc, au lointain, en fond de scène, et regardent le spectacle en train de se créer. Et comme il y a une part d'improvisation, il y a des choses fixes, il y a des choses qui sont dans le cadre tel qu'on a l'habitude de le faire, dont on avait déjà parlé quand on était venu ici, et ils improvisent, donc ils se regardent improviser, ils se regardent en train de créer le spectacle avec la recherche qui se fait.
La prison Jacques Cartier a été conçue selon un plan panoptique, avec une surveillance en hauteur qui permet une vision globale. Est-ce que du coup ça fait lien avec ce que vous venez de dire ?
Bah en fait, la question de l'architecture, du bâtiment, de la matérialité, de l'endroit, elle apparaît aussi dans le spectacle à travers justement la manière dont chacun et chacune va décrire son bureau, sa cellule, le parloir, le mitard en fait. Je pense que le côté vraiment physique et concret du bâtiment, il est présent parce que Marie et Christophe, ils ont toujours incité les comédiens et les comédiennes à être dans le concret, justement, de la description. Quoi.
Faire apparaître l'édifice qui est en même temps l'édifice du souvenir et l'édifice du bâtiment. C'est ce qu'on cherche à faire.
Cette prison a aussi une histoire très sombre. Des exécutions à la guillotine ont eu lieu jusqu'en 1939. Est-ce que la question de la peine de mort apparaît dans le spectacle ? Et si oui, comment la représenter artistiquement ?
Elle apparaît pas dans le spectacle. Parce qu'en fait, notre idée, c'était d'essayer, c'était un défi. En fait, on est parti véritablement des histoires des personnes qui ont répondu à l'appel à témoignage, en fait. Et en fait, cette thématique, elle n'est pas apparue dans le spectacle. Et donc, qu'est-ce qui apparaît dans le spectacle ? L'histoire de la formation des surveillants, l'histoire des voisins, l'histoire des détenus mineurs, l'histoire des détenus, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'on porte la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, l'histoire des voisins dans les années 50. C'est ça qui apparaît dans le spectacle, en fait. Ce qui apparaît dans le spectacle, c'est ce qui vient des gens qui ont fait ce groupe. Et voilà.
Et le titre, L'essence de la porte, histoire de la prison de Jacques Cartier, est très évocateur. Pour vous, aujourd'hui, que symbolise cette porte ?
Alors pour nous, ça fait partie du spectacle, c'est assez marrant. On a avec nous des comédiens, des comédiennes, des acteurs, actrices de ce spectacle qui sont là, qui rongent leurs freins à chaque fois qu'on intervient.
Vous
pouvez vous avancer, justement.
Et
en fait, la question d'essence de la porte, quand on a trouvé le titre, on l'a proposé à la troupe. Enfin, on l'a proposé, on a dit c'est ça le titre. Et on leur a dit plutôt que de vous faire choisir le titre, on va vous demander à quoi ça fait référence à votre avis. Donc en fait, il y a autant de réponse à ce titre que de personnes qui ont participé. Et c'est une des scènes qu'on peut un peu divulgâcher puisqu'il n'y a plus de place pour le spectacle, c'est complet demain. C'est une des scènes du spectacle. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a envie de parler des sens de la porte ?
Ça marche.
Oui, Jean-Luc. Ça marche, Jean-Luc.
Parler, là.
Allez-y.
Ouais. Ah oui. Ouais, tout d'abord, l'essence de la porte, je pense que c'est tout à fait personnel, c'est subjectif, hein, c'est en fonction de son vécu, de son parcours de vie, de ses expériences. Après, une porte, les portes en prison, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles s'ouvrent que dans un sens. C'est-à-dire, c'est toujours le surveillant qui garde le contrôle, qui ouvre la porte de l'extérieur. Quand vous êtes enfermé à l'intérieur, vous n'avez pas le contrôle sur les portes. Donc, quelque part, vous êtes dépendant et tributaire de la bonne volonté des surveillants, quoi. Si on a besoin de, que vous alliez quelque part, ben, il va venir vous ouvrir ou pas. Après, les sens de la porte, c'est assez personnel. Pour moi, personnellement, je veux dire, je suis arrivé à un moment de ma vie, dans mon parcours personnel, où j'avais besoin justement de donner un sens à toute... à tout ce ressenti que j'arrivais pas forcément à mettre en mots. Donc je suis tombé sur l'association Quartier Libre qui m'a permis justement de donner un sens à tout ce ressenti et de pouvoir exprimer ce que représentait pour moi justement le sens des portes à Jacques Cartier, entre autres. Mais je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit la... Donc j'arrête le sens des portes parce que c'est subjectif, c'est personnel. Donc voilà, chacun va donner un sens.
Et c'est dans le spectacle et que chacun donnera...
Je voudrais rebondir juste sur ce qu'a dit la demoiselle tout à l'heure par rapport à la peine de mort. Vous savez, dès que vous êtes enfermé, vous passez le mur, vous passez d'une dimension à une autre. Là, vous êtes mort socialement. Donc la peine de mort, elle n'est pas forcément exécutive dans l'instant même. C'est une mort lente qui se fait jour après jour. On tue... ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui rentrent en prison, là, ils assument. Les trois quarts de gens que j'ai rencontrés en prison, ils ont pratiquement toujours assumé ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas forcément victimes, même si avant d'être victimes, on était bourreau et ainsi de suite. Je veux dire. Mais la mort, je veux dire, en prison, on essaye de vivre... on meurt pratiquement tous les jours. Ouais. Comparé à l'extérieur, où on meurt qu'une fois et on vit tous les jours. Là, c'est le contraire. On essaye de vivre, ne serait-ce qu'un seul instant en prison. Mais la mort, elle existe, elle est très lente. Et les portes prennent aussi un sens, je veux dire. Elles deviennent soit vivantes, soit elles transmettent justement ce côté morbide et mortifère de l'endroit à lui-même, quoi, je veux dire. Après, je pourrais parler pendant des heures, et puis après, je vais m'égarer, donc je pense que je vais laisser la parole à quelqu'un.
Est-ce que vous voulez juste un petit complément, enfin, qui pourrait, sur les sens de la part, est-ce que tu veux en dire quelque chose, Serge? Là, non, reste là, et du coup il va s'approcher.
Approchez-vous du micro, parlez bien dans le micro, bien proche, pour bien qu'on vous entende.
Alors pour moi, le sens de la porte, ça résonne au plus profond de moi-même, puisque la première fois que j'arrive à Jacques Cartier, j'ai 16 ans et demi, c'est un samedi soir, je suis subjugué de voir la hauteur de tous ces barreaux, du bruit de toutes ces portes qui s'ouvrent que dans un sens, comme disait Jean-Luc. Et quand la porte de votre cellule d'attente au quartier ouest se referme derrière vous, ce bruit, en fait, il est infernal. Et puis là, je suis mélangé avec un majeur. Normalement, ça ne se fait pas, mais c'est comme ça. Et le gars, d'entrée de jeu, il me dit qu'il a tué une femme. Alors, quand vous vous retrouvez derrière une porte avec un tueur, à 16 ans et demi, là, le sens de la porte, elle a quand même son importance. Bon, après, pour me rassurer, il m'a dit un peu plus tard qu'il avait tué cette femme au volant. C'était un accident. Mais quand vous avez 16 ans et demi, croyez-moi que la porte, le sens de cette porte, ça, encore aujourd'hui, ça résonne encore.
Magali, si tu veux...
Oui, il y avait deux choses. Je voulais rebondir juste sur ce que tu as dit sur le côté condamné à vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'avait percuté. J'avais vu ça, un message qui était avant on condamnait à mort et maintenant on condamne à vie. Et c'était un détenu qui avait écrit ça sur un des murs et ça m'avait beaucoup parlé en tout cas. Moi, en tant que le sens de la porte, alors je suis travailleur social, mais j'ai été aussi visiteuse de parloir aussi pour ma sœur. Alors, pas à Jacques Cartier, mais j'y ai fait mon stage, moi. Et j'ai des vrais souvenirs de ce qui se passait derrière cette porte que je ne pouvais pas traverser. C'est aussi des relations humaines. Et puis aussi un sentiment d'impuissance. Quand on va rendre visite dans un parloir, on doit aussi y repartir, en fait. Et on est aussi soumis, quelque part, à ces portes qu'on doit en traverser plusieurs pour aller voir la personne qui est incarcérée. Et puis ensuite, on doit faire demi-tour parce que c'est ainsi, en fait. Donc, voilà. Donc, un autre sens de la porte.
Donc là, vous avez déjà pu entendre, en fait, l'idée du spectacle, c'est vraiment d'avoir une pluralité de voix.
Une polyphonie. Ouais.
Voilà, une polyphonie avec des expériences parfois contradictoires.
Eh ben, merci à ces trois comédiens de la troupe qui nous ont partagé ces témoignages de leur vécu avec la prison Jacques Cartier. Je reviens vers vous, Marie et Fanny, pour une dernière question. Le 19 février, au Tambour, qu'est-ce que vous aimeriez que les spectateurs et spectatrices retiennent en sortant ?
Ah bah alors ça, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent ? Je sais pas trop, en fait.
Qu'ils repartent sans doute chargés de questions,
potentiellement
voilà.
On n'a pas de réponse à apporter, je pense. On n'a que des questions à poser, à mon avis.
Potentiellement de l'indignation, de la curiosité, une forme aussi de vision un peu globale des choses et en même temps que ça vienne taper, comme on dit, à un endroit personnel, particulier. C'est quand même ça l'idée d'un spectacle, c'est de renvoyer le spectateur, la spectatrice à sa propre question et qu'en plus ils aient envie ensuite de parler, d'échanger avec les comédiens et les comédiennes. Parce qu'on ne peut pas maîtriser, les choses vont nous échapper forcément. Ce qu'on a essayé de faire, c'est le spectacle le plus concret, poétique et concret, scientifique et artistique, pour que les gens repartent avec des questions, une vision et puis une envie de continuer eux-mêmes à chercher le sens de la porte, puisque à la fin du spectacle, c'est ce à quoi on les invite avec un procédé de mise en scène.
Ouais. Tu veux ajouter quelque chose, Jean-Luc ?
Non, mais je voulais juste dire qu'en fin de compte, c'était un sujet qui était tout à fait d'actualité, parce que maintenant, les gens sont plus à même d'être pris au piège du système répressif de l'appareil judiciaire, entre guillemets, parce que là, on est aux extrêmes avec la prison. Hein, je veux dire, maintenant, c'est... Avant, je me rappelle, dans les années 80, 90, pour y aller, il fallait vraiment faire. Tandis que maintenant, pour une broutille, vous pouvez y aller, quoi, je veux dire. C'est pour un permis qui est défectueux ou autre chose. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir une certaine résonance qui va se faire avec le public, une certaine forme de communion, un échange, je veux dire, parce qu'après, je pense que ça va toucher un petit peu chaque personne qui va venir. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. C'est ce que moi, en tout cas, moi, avant, je veux dire, avant que j'arrive à la compagnie La Morsure, j'étais pas perméable, quoi. Je n'avais pas accès à mes émotions. Je dis, si eux, ils ont arrivé à me faire bouger, à me faire ressentir de nouveau un petit aspect de mon humanité, de mon humanité qui avait disparu du fait d'avoir été incarcéré, je veux dire, je pense que le public va se connecter vraiment, quoi. Il faut vraiment qu'il soit prêt, justement, à entendre, parce qu'il y a quand même une forme de message qui doit passer, je veux dire. Ça touche tout le monde.
Voilà, la prison, ça touche tout le monde, ouais. Quoi.
Eh ben, merci beaucoup à vous. À Marie Parent, metteuse en scène, et Fanny Le Bonhomme, historienne. Vous avez travaillé ensemble sur le spectacle Les Sens de la Porte.
Avec Gaïd Andreau et Christophe Le Chevillère.
Qu'il faut mentionner. donc sur le spectacle Les Sens de la Porte, histoire de la prison Jacques Cartier, c'est demain de 19h à 20h30 au Tambour.
Oh non,
au
ça commence à 20h30.
À 20h30, ouais. Ah bah c'est pas ce que j'avais lu, tant pis. Au Tambour, au campus de Rennes 2, et le spectacle affiche complet.
Il y a une petite exposition dans le hall du Tambour qui accompagne le spectacle, voilà. Merci beaucoup.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
On en a parlé en début d'émission. La France insoumise est accablée par tous ses opposants et opposantes politiques depuis quelques jours dans les médias. On cite LFI tue, ce sont des assassins. Ces mots incriminent le parti politique dans l'affaire Quentin Derenque. Samedi dernier à Lyon, le jeune militant d'extrême droite a été lynché à mort en marge d'une conférence donnée par l'eurodéputé LFI Rima Hassan. Depuis, le parti est tenu responsable de ce lynchage. Car depuis début février, LFI est officiellement classée à l'extrême gauche et ça fait beaucoup parler. Les opposants politiques de LFI établissent le lien entre extrême gauche et danger pour la société. Lola, tu reviens sur ce classement de LFI à l'extrême gauche.
Et oui, LFI se retrouve officiellement à l'extrême gauche, de quoi rendre jaloux même les ultras du club de foot du coin de ta rue. C'est le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, lui-même qui l'a affirmé début février. Les insoumis sont désormais catégorisés comme un parti d'extrême gauche pour les municipales 2026.
Mais comment c'est possible? Est-ce qu'ils ont décidé que LFI était d'extrême gauche un matin, comme ça, sur un coup de tête, Lola?
Alors, même si ça en a l'air, c'est en fait totalement le rôle du ministre de l'Intérieur d'étiqueter les partis politiques comme il l'entend. Enfin, je suis un peu réac, hein, parce que c'est pas aussi simple que ça. En gros, on appelle ça le nuançage. Aujourd'hui, un décret datant de 2014 autorise le ministère de l'Intérieur à créer ce fichier avec le Conseil d'État. Ce dernier comprend des données relatives aux candidatures enregistrées et les résultats obtenus par les candidats et candidates, notamment à des fins d'études électorales. Ce pouvoir est même directement inscrit dans le règlement de chef de service du ministère de l'Intérieur. Il peut donc, je cite, établir une grille de nuances politiques destinée à permettre l'agrégation des résultats des élections nécessaires à l'information des pouvoirs publics et des citoyens-citoyennes. En gros, c'est lui qui décide qui est placé ou sur l'échiquier politique pour que les citoyens et citoyennes sachent à leur tour mieux décrypter le monde politique. Sauf que cette étiquette d'extrême, elle dérange LFI. Elle dénonce une diabolisation du parti juste avant les périodes électorales des municipales, ce qui en effet ne tombe pas à pic.
Mais en fait, ça veut dire quoi être extrême, Jamie ?
Alors ça, c'est hyper philosophique comme question, mais je vais essayer d'y répondre au mieux avec mes amis les chercheurs et chercheuses et historiens et historiennes. En gros, c'est la première fois que LFI est officiellement classée à l'extrême, et on va pas se le cacher, aujourd'hui, être classée à l'extrême gauche, c'est un peu comme recevoir la mention « élève turbulent » dans le cahier de notes de la République. Déjà, c'est quoi l'extrême gauche ? Quand je vous dis extrême gauche, vous pensez sûrement aux trotskistes, maoïstes ou anarchistes, et vous avez bien raison, il s'agit de la branche révolutionnaire de la gauche. Elle rejette le réformisme et le parlementarisme et entend mettre à bas le système capitaliste. Ce qui caractérise cette branche de la gauche, c'est aussi qu'elle n'entend pas lutter par voie électorale. Elle penche plutôt pour le syndicalisme, les grèves générales, voire le sabotage et l'action violente. La France Insoumise est fondée en 2016 par Jean-Luc Mélenchon. Le parti découle du mouvement du Front de Gauche créé lors des élections européennes de 2009. Cette coalition réunit alors le Parti communiste, le Parti de gauche et la gauche unitaire. En gros, ce mouvement prône une prise de pouvoir par les urnes et l'instauration d'une 6e République. JLM veut alors marcher sur les pas de Mitterrand. LFI est donc plutôt social-démocrate à ses débuts. On est bien loin des anarchos et des partis plus révolutionnaires comme la NPA ou la lutte ouvrière, eux, classés à l'extrême.
Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, LFI est considérée comme extrême ?
En fait, si l'on revient dans le temps, on observe que les insoumis ont toujours été un peu moqués, catégorisés comme trop radicaux. Le point de discorde est là. Laurent Nunez confond-il l'extrême gauche et la gauche radicale ? C'est la question que s'est posée l'historien Nicolas Rousselier. En gros, le ministre de l'Intérieur justifie son nuancier par deux points. LFI ferait part d'un fort refus de la discussion parlementaire et le parti remettrait fortement en cause l'autorité judiciaire, médiatique et policière. Il prend appui alors sur de nombreux amendements déposés par LFI à l'Assemblée.
Bah en fait, vu d'ici, ça se tient.
Et oui, puisque historiquement, la spécificité de l'extrême en politique se définit par l'anti-parlementarisme et l'outrance. Mais la réponse ce lundi de Mathilde Panot, membre des Insoumis, est assez intéressante. Elle s'adresse à LCP et dit, je cite, « Parce que nous appelons à la censure du gouvernement, nous sommes d'extrême gauche. » C'est quand même un argument qui est très fort de café et elle n'a pas tort. On peut aussi parler d'extrême alors au sujet d'Emmanuel Macron et ses copains qui ont souvent abusé du 49-3. Même si, il faut le rappeler, les macronistes, eux, assument leur étiquette à l'extrême centre. En tout cas, les Insoumis se revendiquent de gauche radicale et non d'extrême gauche. Cette distinction entre radicalisme et extrémisme cristalliserait le véritable enjeu de cet étiquetage. Jean-Claude Michéa, dans La Double Pensée sortie en 2008, écrit ceci: on appelle critique radicale toute critique qui s'avère capable d'identifier un mal à sa racine et qui est donc en mesure de proposer un traitement approprié. Une posture extrémiste, elle, oblige un sujet, afin de maintenir désespérément une image positive de lui-même, à dépasser sans cesse les limites existantes. Vous avez peut-être pas tout compris, mais il le résume assez bien. En gros, il dit que si quelqu'un propose que l'on coupe la jambe droite d'un malade atteint de la grippe, on ne dira pas que le remède proposé est radical. On dira simplement qu'il est extrémiste. Le parti politique a affirmé en début de semaine déposer un recours au Conseil d'État contre son classement à l'extrême gauche.
Alors LFI, extrême gauche ou pas ? L'avis n'est pas tranché.
Eh bien, selon une étude publiée ce lundi par l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, 77% des Français et Françaises jugent que la France insoumise est à l'extrême gauche, contre seulement 30% qui le contestent. Personnellement, je me questionne quand même sur un point. Et si après tout, ce n'était pas LFI qui se serait radicalisé, mais tout l'échiquier politique qui se serait droitisé ?
Merci Lola. Bah, si vous avez la réponse à cette question, vous pouvez peut-être nous laisser un message vocal sur le répondeur de 6h avant minuit. On va l'écouter. On va voir s'il y a des messages ce soir.
Ah, le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Non, pas de message ce soir, mais comme je le disais, bah, peut-être que vous avez la réponse ou un avis sur la question soulevée par Lola dans sa chronique. Donc n'hésitez pas, laissez-nous un message vocal. Ou alors, si vous avez quelque chose qui n'a rien à voir à dire, on prend aussi 02 30 96 25 35. Merci Maud pour la technique. À demain dans 6h avant minuit.
Si.
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe.
La radio sauvage.